À moins que quelqu'un d'entre vous veuille tout de suite se saisir du micro. Il me revient éventuellement d'engager la discussion, je crois. Alors, vous avez vu que c'est un programme bien agencé quand même, parce que nous avons eu un côté très politique, si je puis dire, un côté très inconscient. Et les deux se répondaient l'un à l'autre par l'intermédiaire de cette mutation du 1, en quelque sorte, qui était à l'œuvre dans chacun des deux exposés. Bon, ça, vous avez bien suivi ça, bien sûr. J'ai peut-être quelques petites questions tout de même. Alors, à Rosin, sur votre séquence, sur le paraître, le regard, le corps, la connaissance, tout ça. Le regard, le paraître, le corps, la connaissance, Aristote, qui s'ancre sur la connaissance, l'idéal aristotélicien de la connaissance. Au fond, est-ce que vous souscririez à l'hypothèse que être soi-même, hein, ce souhait si souvent énoncé, ça serait quelque chose d'un peu près aussi compliqué que réconcilier le regard avec le corps, enfin quelque chose comme ça, parce qu'il m'a semblé que il y avait un peu ce fil-là qui pouvait peut-être parcourir tout le développement que vous avez fait.
Que quoi ? J'ai pas vu le côté.
Réconcilier le regard avec le corps.
Réconcilier le regard avec le corps.
Bon, c'est une proposition sous réserve.
Je
vous la donne. Bon. Tant pis. Enfin, non, alors vous avez cité très soigneusement et avec beaucoup de direction, semble-t-il, Marcel Gauchy. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette angoisse d'avoir perdu les autres. C'est ce que vous l'avez isolé du livre de Marcel Gauchy. Mais c'est une expression séduisante. Quel commentaire vous en feriez? Voilà. Et puis alors, Colette Solaire. C'était quand même un petit peu difficile. Pardon. En tout cas, moi, j'ai éprouvé une difficulté que je vais vous dire à la fin. Des petites questions d'abord juste ponctuelles. Finalement, comment vous distinguez, comment vous distingueriez, certainement vous l'avez déjà fait, mais j'ai passé en tête, induction imaginaire, une jolie expression, induction imaginaire, d'une identification. Deuxième point, c'est très petit point très ponctuel. Est-ce que vous pensez que Lacan équivoque quand il dit corporection? Est-ce que vous pensez que Lacan équivoque aussi avec corporation?
Je crois pas. Oui.
Et puis. J'ai eu un tout petit peu de mal à vous suivre, alors à souscrire entièrement sur deux points. Sur la communauté des jouissances produites et la variété des jouissances individuelles.
Sur la quoi ?
C'est-à-dire notre lecture du discours du maître.
Oui.
Il y aurait donc une mise en commun, alors une communauté ou quelque chose de commun dans les jouissances, par rapport aux jouissances produites, et qui est même, au fond, qui se serait non commensurable avec la variété des jouissances. Je ne suis pas individuel, je suppose. Et puis j'arrive à la vraie difficulté quand même que j'ai eue. Ça, c'est moi. Bien sûr. Qui est finalement ce passage du pour tout homme, pour tout homme, ça va, à condition de le faire très doucement, et au fond, le développement après que vous. Qui se greffe par-dessus, enfin, que Lacan greffe avec cette invention de l'O-1.
L'O-1.
Voilà. Et alors j'ai lu, hein, parce que j'ai reçu le texte avant. J'ai de la chance. Le privilège de présider les séances. Voilà. J'ai reçu les deux textes avant. Et j'ai lu, j'ai relu, et puis. Finalement, j'ai une sorte de question, une vraie question, c'est le homme moins un et homme, ces deux choses-là. On a parfois. Comment ça se distingue ?
Quoi ?
C'est deux.
Je comprends pas la question.
Ah,
oui, j'ai compris.
Moi, je comprends. Sachant que. L'homme est la partie
qui tombe,
pour ainsi dire,
qui chute,
immergée, castration. Ça, puisque Lacan utilise, dans les théories, il utilise la préposition, le pronom ça pour parler de Tom. Donc c'est cette partie, castration, etc., du pour tout homme. Le pour-tout étant l'élaboration fioriture du discours, d'accord. Et le homme moins un, qui est donc en exception, comment le distinguer du tome lui-même
d'accord, en exception je vais expliquer
par rapport au matériel.
C'est très simple.
Oui.
Non,
voilà l'essentiel, moi, en tout cas.
Ah ben moi, j'aimerais bien dire un petit mot sur être soi. Le tourment des sujets qui voudraient être eux-mêmes. C'est vrai, on rencontre ça. Ça veut dire que c'est des sujets, quand tout le monde n'a pas ce tourment, hein. Les sujets qui ont ce tourment-là, c'est des sujets qui ont l'impression qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ont ce sentiment. Et pourtant, quand on regarde les gens autour de nous, on voit que chacun est vraiment lui-même. Donc il y a un truc là.
Très bonne.
Non mais c'est vrai, c'est pas moi qui parlais d'être lui-même. Oui, je sais bien. Ça veut dire que dans le sentiment de pas être soi-même, il y a quelque chose qui ment. Chacun est soi-même.
Simplement,
on ne le sait pas toujours.
Oui, en même temps, il me semble souvent, quand quelqu'un dit ça, ou les choses qu'on dit souvent, je n'ai pas confiance en moi-même, c'est des trucs qui reviennent tout le temps, c'est que le sujet ressent quand même une inadéquation entre tout ce qu'il a investi dans le paraître et le réel de ce qu'il est comme jouissant, c'est que, comme j'ai dit, il ne veut rien savoir. Et c'est ça que je voulais.
Oui, le sentiment que le paraître le dérobe à lui-même. Oui, non, mais je réfléchissais sur l'expression. Alors, Frédéric, l'induction imaginaire et l'identification. Est-ce qu'il n'y a pas deux types et deux strates d'identification ? Il y a des identifications imaginaires, c'est par celle-là que Lacan a commencé, avec le stade du miroir. Et il fait du stade du miroir le principe du premier noyau socialisant dans le texte. Hein. Il écrit tel que. Et c'est de l'induction imaginaire. ça joue de l'imitation, de la compétition avec l'image, etc. C'est une dimension de l'expérience et on la distingue, Lacan nous a appris à la distinguer, et il n'a pas tort, des identifications de l'idéal du moi qui prélèvent non pas de l'image, mais du signifiant sur l'autre, sur le discours de l'autre, les grands idéaux de l'autre. C'est pour ça que Lacan réécrit l'idéal du moi freudien, il écrit idéal de l'autre. C'est toujours l'idéal du moi, mais c'est l'idéal de l'autre. Donc voilà pour induction imaginaire. Je mets bien le terme d'induction imaginaire parce que ça donne l'idée que l'imaginaire a aussi sa puissance. Hein, ça pousse. Bon.
Les plaques à induction.
Oui.
Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. C'est pas du tout.
Ça chauffe.
Les associations sont permises chez nous. Alors, concernant les jouissances, ce que j'ai dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est Lacan qui dit qu'il y a une barrière. Il y a une barrière, moi j'ai dit un écart, on pourrait dire un hiatus, il y a un hiatus entre les jouissances ordonnées par le discours d'un temps, que ceux qui sont dans ce discours, tous ceux qui sont apparolés à ce discours, ont en partage. Et quand on a des jouissances en partage, c'est ça le principe du communautarisme. Parce que le communautarisme, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est des gens qui ont les mêmes mœurs, qui ont les mêmes habitudes, les mêmes alimentations, les mêmes rituels d'alimentation, les mêmes mœurs sexuelles. Et ça fait groupe. Ça fait groupe, c'est pour ça que je dis c'est au principe du communautarisme, quel qu'il soit. Tandis que la vérité de jouissance, elle vient de l'inconscient. Et il n'y en a pas deux pareils. Pas deux pareils. C'est ce qui justifie le terme de variété, qui condense vérité et variété.
Bon. Mais encore, vous n'étiez pas d'accord, je n'ai pas compris. Moi.
Ben non, je n'ai pas compris non plus qu'il ne soit pas d'accord. Je lui ai expliqué.
Non, mais ça peut être intéressant.
C'est très rapidement désaccord en forme.
Oui. Alors, il y a ce qui fait homme, beaucoup d'X, fille de X. Et quand Lacan a écrit l'homme moins un, qui est le moins un? Le moins un, c'est l'exception qui conditionne le pour tout X, fille de X. Donc, chacun des tomes, chacun de ceux qui sont faits hommes, quelle soit leur variété, parce qu'il ne peut pas avoir de la variété, mais ils partagent tous la castration, et pour ça, il faut qu'il soit chacun l'homme moins un. Le moins un, ici, écrit, condense les deux formules. Il existe un pour qui n'en fit de X, voilà le moins un, et puis tous les X, ce sont les autres. Et donc, chaque homme, chacun des individus qui se trouve dans le pour tout X fit de X, est un l'homme moins un. Puisque c'est le moins un du père qui conditionne le pour tout.
Ah,
ça va, hein. D'accord.
Non, il n'y avait pas de questions pour moi, je crois pas. Si. C'était quoi la question? Ah non, mais vous m'avez dit une phrase, je dis que je vous la laissais parce que je...
Je suis quand même, il vous a demandé ce que vous pensiez de ce que dit Gaucher.
Mais il dit beaucoup de choses. De quoi? De quoi, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il dit beaucoup de choses, mais c'est ce que je pense de quoi? Non, mais si j'y arrive, si je comprends la question, j'y réponds, je fais.
Non, mais c'est une question très simple. C'est Pensez-vous que cette angoisse d'avoir perdu les autres,
oui, sur ce point, oui.
C'est un truc, c'est très séduisant. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est exact?
Moi, je trouve assez intéressant quand il dit que la fragilisation du lien social se traduit par ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette recherche aussi effrénée de sujet sur G40. Tant qu'il y a une communauté, ce que Colette Soulaire disait, des idées communautaires, on se sent moins seul, voilà.
C'est ça, avoir perdu le tout.
Craindre de les perdre.
Comment ?
Craindre de perdre les autres.
Oui, c'est ça, un seul, isolé. Donc c'est pour ça qu'il dit il y a ce désir d'intégration qui en effet, est paradoxal vis-à-vis du culte de l'individualisme. Donc, si, moi, je trouve. Oui, je trouve que ça. Ouais, je suis d'accord.
Sur regard et corps, vous ne voulez pas développer plus.
Mais parce que votre question, je n'ai pas compris. Votre phrase, c'est le. Est-ce que. Répétez-la. Est-ce que quoi?
Je
ne
sais pas.
Réconcilier
le regard avec le corps.
Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Réconcilier le regard avec le corps. Je sais pas ce que vous voulez dire. Je n'arrive pas à la commenter.
Vous décrivez des sujets embarrassés, enfin, de la mauvaise ou bonne ou insuffisante qualité du regard porté sur eux, etc.
Moi, la question que j'ai sur le paraître, enfin, tel que. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, parce que moi, je n'avais pas votre texte avant. Hein. La question que j'ai, c'est que. Est-ce que ce que Lacan a développé sur le principe du paraître est obsolète? Je n'en suis pas sûre. Puisque si on relit la signification du phallus, il explique très très bien que ce qui fait, ce qui induit, encore l'induction, ce qui induit la dimension du paraître dans le jeu entre les sexes, c'est le refoulement du désir. Et que donc le paraître se sert des images, c'est-à-dire de ce qui est articulable en signifiant, hein, de ce qui peut être énoncé clairement par l'autre, le paraître se sert des images, mais pour rejoindre quelque chose qui ne se voit pas. Ah. Et ça n'a pas disparu. Donc...
Ah non, mais je n'ai jamais dit que ça
disparu. Non, mais disparu. Vous n'avez pas dit ça, mais quand on fait beaucoup le procès actuellement de l'inflation des images dans notre monde, la façon dont se photographier soi-même, les selfies, etc. Mais c'est le même jeu du paraître de toujours.
Tout à fait.
On offre au regard de l'autre ce qu'on peut, à chaque moment, à chaque époque, mais c'est pour rejoindre autre chose chez l'autre. C'est pour rejoindre son intérêt, son désir, etc. Donc, ça n'a pas changé. Simplement, les mœurs ont changé, donc...
C'est exactement ce que je disais, c'est que le paraître apparaît plus diversifié. Je parlais de Gaucher qui parle de l'amour de Dieu, vous parlez de discours du maître, c'est la même chose.
Ah non, c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Mais Dieu a joué... a joué quand même le rôle du discours du maître, c'est pas la même chose, bien sûr. Non ?
La lumière après.
Je suis pas d'accord. J'assimile pas, bien sûr, Dieu au discours du maître, mais c'est quand même, comment dire, un se référant à lui qu'on faisait un discours du maître. Après, Il y en a d'autres qui, bien sûr.
Non, la question de Dieu, je crois que c'est quand même autre chose que la structure du discours du maître. Dieu, c'est un élément de la structure.
C'était le garant d'un certain discours du maître, je dirais.
J'avais cette question en tête quand je vous ai écouté, mais je ne voudrais pas le développer parce que c'est trop complexe. Ouais. La question de Dieu est trop complexe. Déjà parce que Dieu n'est pas lui-même unifié. Il y a déjà, même en Dieu le Père, il n'est pas unifié. Il y a le Dieu supposé savoir, il y a le Dieu des prophètes. Et en plus, il y a le Dieu femme. Alors, on en a déjà au moins trois. Oui. Donc, vous voyez, c'est plus complexe. Tandis que le discours du maître, c'est quand même quelque chose de très précis. C'est qu'il y a un signifiant, ou des hommes qui s'abritent sous un signifiant pour exercer un pouvoir précis.
Oui, ça, j'entends bien. Mais je ne sais pas, moi, ça ne me choque pas trop de dire qu'il garantissait un certain discours du maître.
C'est un peu simpliste.
Enfin, au départ, je crois que Lacan réfère le discours du maître à Lycurgue, qui n'était pas spécialement prodigieux. Et qui, s'il l'était, était pris de toute façon dans le panthéisme grec. Donc il n'y avait pas du tout ce un garant du monothéisme. Donc,
ça, c'est un argument en plus très fort. C'est que le discours du maître n'est pas seulement présent dans les monothéismes.
Ça, d'accord.
Ouais. Au contraire.
Ça, tout à fait d'accord.
On parlait au Japon aussi, je pense.
Si j'ai bien compris, Nicolette, vous dites en tout cas que le discours du maître est en train de disparaître ou il est déjà. J'ai bien compris ou pas? Parce que vous l'affirmez.
Ce qui a dit. Dans le temps de l'exposer, je n'ai pas développé, mais je voulais dire quelque chose. Oui.
Oui. Et alors, je me demande si ça, c'est une thèse qui détruit automatiquement, il me semble majeur, c'est-à-dire que ça déplace tous les poids, en effet, sur les tomés, pour dire un verbe comme le fait Lacan.
Oui.
Et donc, avec les répercussions politiques dont vous parlez, effectivement, au niveau de la garantie, ou bien, s'il faut dire, ça c'est plutôt ma pensée, que les discours est inhérent à la structure. C'est-à-dire que ça ne peut pas disparaître, ça peut se réduire. Chose qui ne veut pas dire que, comment dire, ça déplace tout le poids sur la question du tomé.
Le discours du maître n'a pas disparu. Il existe toujours, mais il ne régit plus l'ensemble de notre monde. Par contre, il y a, moi, ce que j'appelle des cellules du discours du maître. Il y a toujours des cellules qui fonctionnent au discours du maître. C'est-à-dire, avec un qui est en position de commander à d'autres. C'est ça qui définit le discours du maître. Un signifiant commande aux autres. Donc l'individu qui supporte ce signifiant est en position de commandement, on peut le dire de différentes façons. Donc ça ne peut pas absolument disparaître. C'est pour ça qu'on a tellement, comme l'a dit Rosa, on a de plus en plus de sectes, de plus en plus de gourous, qui sont des façons justement de recréer des cellules, des épars, des assortis sous la houlette.
Parce que ma deuxième question, c'est justement sur ça, c'est-à-dire si ça ne disparaît pas par structure, ça veut dire que l'éthique qui est liée à chaque discours, ça va avec, comment dire, avec la question du pourtant. Plutôt qu'envers la question du tomber.
C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans la question de la garantie, pour faire bref et prendre la partie politique de l'exposé, quelque chose qui dépend d'un discours, et notamment, ça dépend du discours du maître ou bien du discours analytique, sur ça on est bien d'accord. Mais il me semble très très important de préciser ça au niveau théorique. Sinon...
Je ne comprends pas vraiment ce que vous précisez là. Je suis d'accord avec vous pour dire que quand on parle du déclin du père, quand on parle du déclin du maître, ça ne veut pas dire que c'est fini, il n'y a plus de structuration de groupe ou de collectif en fonction du discours du maître. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Après, je ne comprends plus.
Donc, ça, c'est à moi du maître. Alors, je sais. Je veux dire que la question, en effet, du discours, je répète la demande parce que ça, c'est crucial, c'est-à-dire si c'est inhérent à la structure. Donc, si c'est.
Mais de quelle structure vous parlez ?
La structure du langage. La structure des effets du langage.
L'au
moins en s'appelle un discours, c'est ça ? Je comprends comme ça.
Mais non.
Non, dans les cas qui on pourrait dire pathologiques.
Non.
Si vous voulez.
Non, mais je crois que c'était une partie de l'exposé de Colette
Seller. C'était difficile de l'exposer.
J'avoue que c'était difficile.
C'était contraire que au moins un tomé pour tout homme, tout ça. Quel que soit même un ton de détail par après, c'était distinct de la question du discours.
C'est distinct du discours.
Oui, c'est sûr. Je dis seulement si. Selon vous, bien sûr, ça l'implique en tant que, comment dire, si la partie tomée, ça implique aussi la part pour tout.
Tomée, c'est le pour tout, oui. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas dire l'un implique l'autre. L'homme se tome dans le pour tous. Et Lacan distingue ça.
Oui.
De l'opération des discours. Hein? Donc, c'est une opération de langage qui vient du coup du langage et qui n'est pas l'opération du discours. Alors, maintenant, on peut dire, je ne sais pas, on peut dire, est-ce qu'il n'y a plus du tout de discours ? Il y a toujours un ordre du monde, il y a toujours. Et quand Lacan étend d'écrire le capitalisme comme un discours, alors que c'est pas du tout la même structure que les quatre autres discours, c'est bien parce qu'il cherche à trouver la structure, il est à la recherche de ce qui structure le monde social à un moment donné. À un moment donné. Et ça, c'est historique.
Je trouve que dans le discours du maître, il n'a pas du tout disparu. C'est-à-dire que je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé du tout le discours de la science, le discours des experts, tout ça, ce sont quand même...
Ce n'est pas le discours du maître du tout. Hein.
Le discours de la science.
Non. Le discours de la science est ce qui contribue à détruire le discours du maître.
Ah, alors, c'est le discours de la science dans le bon sens du terme. D'accord. Ok. C'est pour la science. Je pensais aux scientifiques, aux experts, le chiffrage, la grâce. Oui.
Marc,
il n'y a pas de problème.
Qu'il passe le micro. Ah, il est là.
Il est en route. Par rapport à la discussion que vous venez d'avoir, Colette, si j'ai bien compris, à partir de ce que tu dis, tu réfutes complètement l'expression « discours de l'inconscient ». Il n'y a plus de discours de l'inconscient.
Oui, oui.
C'est un peu radical, non ?
Encore que j'ai retenu les dernières élaborations de Lacan, mais si on prend ce qu'il écrit dans le discours analytique, Lacan, il y a donc du côté de la production, qui est sein du sujet, et de l'autre côté, S2, il y a l'inconscient par l'être. Ok ? Mais, néanmoins, l'inconscient est des deux côtés. L'inconscient est des deux côtés, et sous quelle forme il est du côté de la production, ben, il est justement sous la forme des signifiants maîtres du sujet, et ça va de l'idée du moi au grand phi. Donc, et ça aussi, c'est inconscient. Comme Freud a bien souligné ça, que les idéaux du moi de sujet ne sont pas ces idéaux qu'il connaît. Seulement. Donc, il y a aussi de l'inconscient de ce côté-là. Disons que ça, c'est l'inconscient sujet. On peut l'appeler l'inconscient sujet. Et justement, l'inconvénient, c'est qu'il y a un hiatus entre l'inconscient sujet et l'inconscient par l'être qui...
Oui, d'accord, mais l'un ne se substitue pas à l'autre.
Non, il voisine, disons. Voilà. Pas une voisine. Oui. Une voisine en chacun. Donc,
ça était,
une
ça
voisine en chacun. Mais l'un n'influe pas sur l'autre, c'est ça l'ennui.
Alors ma question était, ça sera une contribution au débat, ma question était sur les conséquences de ce que vous avez élaboré finalement toutes les deux, assez différemment, sur la place du discours analytique ou la défense du discours analytique politiquement aujourd'hui. Nous sommes à l'ère des pétitions, les pétitions qui circulent pour défendre la psychanalyse, la singularité des sujets, etc. Et c'est en cours actuellement. Colette, ce que tu as dit aujourd'hui laisse supposer que tu t'opposes à ce genre de démarche. Parce que là, finalement, tout le monde actuellement agite la promotion de la singularité partout.
On peut agiter le panneau « Nous sommes tous des singuliers
oui. »,
mais c'est ce dont les sujets souffrent.
Absolument. Alors justement, ma question...
On va leur dire « Souffrez en double, au carré ».
Alors ma question, tu as tiré les conclusions au niveau de l'institution analytique pour l'international, mais au niveau de la représentation sociale de la psychanalyse, quelles conclusions tu tirerais de ce que tu as dit aujourd'hui?
Moi, je ne tire pas pour l'instant de conclusions globales, synthétiques. Il me paraît certain que la psychanalyse peut s'arrêter. Pas l'inconscient, mais que la psychanalyse peut s'arrêter. Peut-être qu'aucun de ceux qui sont là, quel que soit leur âge, ne le verra. Mais la psychanalyse est apparue à une époque. À une époque, et... il se peut très bien que dans X temps, on aura bien sûr une marée de psychothérapie, de soins, parce que les sujets souffrent et qu'ils ont besoin de soins, ils ont besoin. Mais l'analyse telle que nous l'aimons, c'est-à-dire qui suppose quand même sur le fil de. Du déchiffrage freudien, un désir de savoir pour chacun de ce qu'il habite, de ce qu'il est, etc. Il est très possible que ça disparaisse. Donc, je suis pour la cultiver tant qu'elle est là. Maintenant, pour ceux qui font des pétitions, qui vont dans les institutions pour que essayer de protéger certaines conditions qui rendent la présence des analystes possible dans les institutions. Je suis pour. Je crois que c'est un combat. C'est un combat qui a peu de chances de gagner, mais il faut quand même le tenir. Parce que, bon, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Hein.
Il nous reste assez peu de temps.
Ah oui,
donc, ça serait bien de passer le micro à Radu Turkevi et à Carlos Divarro. Et ça sera malheureusement.
Une question pour Rosa. Quand vous parlez de la politique du psychanalyste, si j'ai bien entendu, je vous demandais qu'est-ce que vous mettez là. dans cette formule politique-psychanalyste, est-ce que le psychanalyste a une politique? Et pour connaître, je pose la deuxième question.
Quand je parle de politique du psychanalyste, c'est la façon de diriger la cure. Qu'est-ce qu'il doit...
Est-ce que c'est une politique?
Pour moi, je dirais ça. Il peut peut-être utiliser d'autres mots, mais... C'est-à-dire que ça a un but, ça a une visée.
C'est un terme de la stratégie.
Oui, mais qu'est-ce qu'on y met?
Sa politique, c'est ce qu'il dit.
C'est
ce qu'il dit dans la direction de la
cour. Oui, mais il y a d'autres textes où il dit un peu autrement. Quand il dit de politique, stratégie, est-ce que le psychanalyste a une stratégie, c'est-à-dire des a priori? Juste pour connaître une question sur est-ce que là, quand vous faites la lecture de ce régime du tout et de tous, à propos de l'exception, on ne pouvait pas penser que c'est un régime de l'exception généralisée. C'est-à-dire tout peut faire exception. C'est une question.
Non, moi je placerais l'exception généralisée du côté du patou. Du côté du patou, c'est l'exception généralisée.
Je voudrais t'interroger sur deux points. Le premier point, c'est sur le constat en fait, que tu fais de l'individualisme, disons, renforcé, disons qui est de soi, qui est évident dès l'époque. Est-ce que ce constat est toujours d'actualité? Parce que en même temps, en fait, on dénonce aussi la montée du communautarisme, le retour en force de la religion, les réseaux sociaux, etc. Toutes les tendances, justement, qui vont dans le sens inverse. Et donc, la question, c'est de savoir si est-ce qu'on peut rester justement au constat du pur individualisme ou s'il n'y a pas une mutation, disons, que du coup, on ne voit pas... Et la deuxième question, par rapport à ces choses-là que tu as nommées comme étant de notre époque, c'est-à-dire la question de la prévalence du paraître, l'effet de privilégier les biens ou les jouissances individuelles en fait, par rapport aux biens communs, etc. Et les vivre ensemble, l'individualisme, voilà, par rapport à l'individualisme. Donc, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que la psychanalyse, qu'une analyse, rend les sujets plus aptes, disons, au vivre ensemble, à aller dans le paraître, s'il y a une garantie vraiment de la psychanalyse par rapport à ça, et du coup, si c'est le cas, qu'est-ce que tu en penses des communautés de psychanalystes? Est-ce que ça se reflète dans les communautés d'analystes?
Ça passe beaucoup de bière.
La question.
Je pense que sur cette phrase. Oui, allez.
Alors, est-ce que la psychanalyse peut quelque chose? Ça a été ma conclusion. Donc oui, il peut quelque chose, modifier quelque chose sur le lien social. C'était ma conclusion. Ensuite, est-ce que l'individualisme est en train de devenir du passé et que c'est le communautarisme qui arrive? Il me semble que là montre un peu qu'est-ce que l'individualisme a de paradoxal. C'est plutôt ça que je voulais dire.
L'individualisme n'est pas incompatible avec le communautarisme. Ça va ensemble. Enfin non, pas forcément. Il peut y avoir des formes d'individualisme. Il y a eu certainement, mais l'individualisme et le communautarisme, ça va très bien ensemble. Ça fera une jolie image pour ça. Il évoque la boîte de petits pois. Vous voyez, chaque petit pois est une petite unité. Mais dans leur boîte, ça fait communauté. Ah oui. C'est dommage. Bravo.
Merci à nos deux intervenants.